Que le Seigneur soit béni pour ces moments. Quelle grâce de nous retrouver sous son regard. C'est important d'apprendre. Vous avez envie d'apprendre ? Ce matin, nous avons eu la joie de recevoir notre nouveau pasteur stagiaire et nous sommes partis de ce verset que nous apprenions à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est important d'apprendre. Vous avez besoin d'apprendre ? Vous savez tout ? Vous savez tout ? Bon, on a besoin d'apprendre. Nous avons donc pensé qu'il serait nécessaire de prendre l'épître de Paul aux Corinthiens pour voir comment rendre un bon témoignage. Est-ce que c'est important pour vous de rendre un bon témoignage ? C'est quelque chose de vital. Rendre un bon témoignage. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Mais un vrai chrétien, il a besoin de savoir s'il rend un bon témoignage. Il a besoin d'apprendre à rendre un bon témoignage. Tout ça, ça s'apprend. Alors nous allons commencer par le début. Je vous encourage bien sûr à lire la première épître de Paul aux Corinthiens, ainsi que la deuxième. Nous allons lire les 9 premiers versets. Ce soir, on va voir le fondement justement d'une église, le fondement du témoignage. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 9. Paul apôtre, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu et le frère Sosthène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte, regardez bien un peu, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. C'est beau ça quand Dieu peut dire dans une église, il ne vous manque aucun don. C'est ça, vous allez voir que ça ne règle pas tout. Hein. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est l'introduction. À partir du verset 10, il est fait parler des divisions qu'il y a dans l'Église, des rivalités, etc. Et nous verrons justement comment nous devons nous comporter lorsque ça peut arriver dans une église. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des rivalités, de la jalousie dans une église ? Dans une église, comme celle de Corinthe, où il y avait des sujets de louange, il dit « Mais je suis heureux de voir ce que le Seigneur a fait au milieu de vous, il ne vous manque aucun don. » C'est pas merveilleux ça ? On se dit « Mais dans une église où il y a tous les dons, ben, il n'y a pas de problème. » On pourrait, vous voyez, d'une manière très expéditive, on pourrait dire « Mais c'est pas possible, s'ils ont tous les dons, il n'y a pas à faire. Ils sont remplis du Saint-Esprit, donc ils ne peuvent qu'avoir un bon témoignage. » Et toutes ces choses ont été écrites. Alors déjà à l'époque, il y a 2000 ans, il y avait des choses qui avaient besoin d'être cadrées malgré cette affaire. Alors aujourd'hui que nous sommes dans des temps difficiles, dans des temps d'apostasie, dans des temps où à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Les gens n'aiment pas la vérité. Est-ce que c'est écrit ça ? Que dans les derniers jours, il y a beaucoup de chrétiens qui n'aimeront pas la vérité. Ils préféreront le mensonge. Enfin, ça va quand même mal finir pour cette catégorie de chrétiens, justement, qui ne respectent pas la doctrine, qui vont au-delà de ce qui est écrit. Donc nous sommes dans des temps compliqués, nous sommes dans des temps très difficiles, mais il n'empêche que Jésus va trouver une église irréprochable des vainqueurs. Dans toutes les lettres à l'Apocalypse, il est dit « à celui qui vaincra ». Donc dans chaque église, quel que soit le nombre, quelle que soit la dénomination, il y aura des gens qui auront le souci d'être trouvés irréprochable. C'est important ça. Regardez dans la parabole des vierges. Dans la parabole des vierges, c'est Jésus qui parle. C'est une prophétie. Il explique bien qu'il y a 10 vierges. Ça veut dire 10 chrétiens qui sont purs. La virginité parle de pureté. Mais malgré le fait que certaines soient pures, c'est pas parce qu'il y en a 5 de pures qu'elles ont de l'huile. Vous me suivez ? Donc, ça signifie que ce n'est pas parce qu'on est un véritable chrétien qu'on fait ce que Dieu nous demande. Il y a beaucoup de croyants qui ne seront pas prêts, qui seront répréhensibles, parce qu'ils n'auront pas cherché à rendre un bon témoignage. Vous savez, si vous avez lu le livre des juges, il se termine, je vous donne la référence, 21-25, il se termine par cette parole, dans ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est écrit plusieurs fois, mais le livre termine avec cette parole. En ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est 100 fois pire. Les gens font mais ce qui leur semble bon. Pour les gens, c'est bon. Ils font certaines choses, mais non, c'est bon. Leur critère à eux, leur critère de la vie, c'est la sincérité. Moi, je suis sincère. Comme je suis sincère, ça doit être la vérité. Est-ce que la sincérité est le critère de la vérité? Non. C'est quoi le critère de la vérité? Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est écrit où ça? C'est bien, monsieur Delon. Monsieur Delon, c'est ça. Mardi, vous me remplacez. Hein? Tape sanctifié par Jean 17, verset 17. C'est ça. Et aujourd'hui, mais vous écoutez comme moi, vous écoutez, même les ministres. Ah, attention, c'est pas parce qu'ils sont ministres qu'ils sont des références au sujet de la moralité, croyez-moi. Alors, il y a des gens qui disent ceci, voilà ce que j'ai noté. Puisque la majorité affirme telle chose sur tel sujet, c'est ça la référence de la vérité. S'il y a 20% de la population qui disent, ou 30%, l'avortement, c'est bien, ça devient une référence. La preuve, c'est qu'il y a une, je ne sais pas combien d'années, on a voté, on a validé le fait que l'avortement était quelque chose de légal. Donc ça devient moral. Est-ce que c'est parce que c'est légal? Est-ce que ça devient moral? Bien sûr que non. Il y a 30 ans ou 50 ans en arrière, l'avortement, c'était un crime. Aujourd'hui, c'est autorisé, c'est même encouragé. Et on pourrait, j'ai marqué là, parce qu'il n'y a que l'embarras du choix, la loi Leonetti. Vous avez entendu parler de la loi Leonetti sur la fin de vie, le suicide assisté ou la mort assistée. Vous avez entendu tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, comment c'est en train de rentrer dans notre société, c'est accepté en Suisse. Il y a plein d'associations pour le droit de mourir dans la dignité. Ça fait que les gens, bientôt, auront l'autorisation de se suicider légalement. Oui ou non? C'est ça qui arrive. Tous les jours en Suisse, allez sur Internet. Moi, j'y étais sur Internet, voyez, pour ne pas dire de bêtises, et regardez le nombre de personnes tous les jours qui meurent par suicide assisté. Ça fait peur. Et regardez les témoignages. Alors, je peux vous dire que là, le témoignage... Les docteurs qui se gargarisent d'avoir aidé des centaines de gens à mourir dans la dignité. Je pense que ce n'est pas tout à fait ce que Dieu dit. Mais la loi Leonetti, elle est normale aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors que les 10 commandements sont catégoriques, tu ne tueras point. Et ça serait intéressant, peut-être que ça serait même utile, de prendre certaines nouvelles lois. Puisqu'il est quand même dit qu'à la fin des temps, l'Antéchrist cherchera à changer les lois. C'est un fait, ça c'en est un. Alors je l'ai pris pour vous expliquer que les gens aujourd'hui, la normalité, c'est ce que la majorité des gens pensent. Donc c'est bien, c'est sincère. Alors j'ai pris cette loi, je vous dis, j'avais que l'embarras du choix. Lorsque les sages, le conseil des sages, ça fait pitié, hein. Moi ça m'énerve. Le conseil des sages en France a validé la loi sur le mariage homosexuel. Ça fait peine. Ça a été accepté. Toléré par tout le monde. Il espérera changer les temps et les lois. Il y en a, on peut réfléchir le dimanche, tiens, travailler le dimanche. On n'analyse pas tout, mais mes frères et sœurs, il y a des choses, il faudrait quand même prier pour que le Seigneur nous éclaire. Le ministère de l'éducation, vous avez vu l'éducation? Non mais c'est grave. Hein. Tout ce que notre ministre de l'éducation est en train d'intégrer pour que nos enfants soient éduqués dans une sexualité à outrance. C'est grave ça, c'est grave. Je suis en train de vous dire ces choses pour vous expliquer, pas pour critiquer, c'est critiquable, mais pour vous expliquer que nous les chrétiens, nous devons savoir quelle est l'autorité, la seule autorité qu'on a, nous, c'est Dieu. La seule référence pour comprendre notre comportement, c'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Un chrétien, il doit dire, voilà, moi, mon repère, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Le juste, il doit vivre par la foi. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Par la foi, oui, mais il ne faut pas oublier que d'un côté, il y a la foi, et de l'autre, il doit toujours y avoir la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que c'est bien de parler de la foi, mais n'oublions pas qu'il y a notre part, mais qu'il y aura toujours la bénédiction de Dieu qui nous accordera sa grâce si on respecte la parole. Parce que vous savez, on peut tout mettre de notre côté, la foi. Voilà, je vis par la foi. Dieu l'a dit, je le fais. Dieu l'a dit, je le crois. Oui, mais mes frères et sœurs, comptez toujours sur la grâce de Dieu. Parce qu'on a besoin vraiment de la grâce de Dieu. C'est important de comprendre ces choses. Vivre par la foi, vous êtes d'accord, vivre par la foi ? Et vivre par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, demandez la grâce de Dieu. Vous savez, cette étude, je pourrais la déséquilibrer en expliquant combien c'est la foi. Et ça ne serait pas bien. La foi et la grâce de Dieu. Vous aurez toujours l'aide de Dieu pour vivre et pour rendre un bon témoignage. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien ? Un chrétien, c'est quoi un chrétien ? Un évangélique ? Un baptiste ? Un catholique ? Un protestant ? C'est quoi un chrétien ? Parce que les religions se sont battues à cause de ça. Nous, on l'aborde d'une manière sereine. Mais n'oubliez pas qu'il y a des églises qui se sont battues. Regardez comment les musulmans s'entretuent entre eux. Mais vous savez, on peut critiquer ce qui se passe. C'est vrai. Mais vous savez, on n'a pas fait mieux pendant l'Inquisition dans notre Europe ancienne. Croyez-moi. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Est-ce que vous dites, toi, t'es baptiste ? Ah, ben oui, t'es un chrétien, mais enfin, de deuxième catégorie. Toi, t'es pentecôtiste ? Ah, t'es... Toi, tu es au-dessus. C'est quoi un chrétien ? Alors, on va lire la référence. Parce que le témoignage, c'est important, je le dis aux stagiaires, c'est important d'apprendre des versets par cœur. C'est quoi un chrétien ? Eh bien, regardez comment Jésus a défini ce que ça serait un chrétien. Lorsque, dans Matthieu chapitre 16, c'est important, parce que vous témoignez, est-ce que vous aimez témoigner ? Est-ce que c'est facile de témoigner ? Non, mais si vous connaissez des versets, ça simplifie le témoignage. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas tellement ce que l'on dit qui est important, c'est ce que l'on dit de la parole de Dieu. C'est pour ça que moi je demande aux gens de donner toujours un évangile. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, Jésus va en faire le fondement de l'Église, donc on voit vraiment qu'est-ce que c'est un chrétien. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Apprenez ces versets par cœur. Quand vous discutez avec quelqu'un, il verra que ce n'est pas d'être catholique ou d'être évangélique qui fait un chrétien. Alors, Jésus pose une question sur ce que les gens pensent de lui. Qu'est-ce que les gens disent qui je suis ? Puis après, il cible, et vous ? Parce que c'est bien de dire, oui, les gens disent de Jésus qu'il est ceci, mais toi, mon frère, qu'est-ce que tu dis de Jésus, au fait ? Parce qu'on peut dire, oui, les catholiques disent de Jésus que... Mais toi, mon frère, qu'est-ce que tu dis ? Alors, c'est ce qui s'est passé. Verset 15, « Et vous ? Leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Regardez la réaction de Jésus, l'enseignement de Jésus. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Donc ça veut dire qu'il se tenait devant Dieu pour recevoir une pensée de Dieu. « Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus a confirmé la parole de l'apôtre Pierre en disant que le fondement de l'église, ça serait cette parole. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Est-ce que vous... Oui, vous pouvez dire, mais oui, Jésus c'est Dieu qui est venu en chair sur la terre. C'est ça un chrétien. Il y a des gens qui vont à l'église, ils prient, ils connaissent les cantiques par cœur. Mais est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est Dieu ? Est-ce que vous le croyez vraiment ? Vous savez, je ne suis pas sûr que tous les croyants dans nos assemblées le croient. Le Fils de Dieu, oui, le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu. Est-ce que vous réalisez ce qui s'est passé au calvaire ? Et... Le témoignage, on va parler du témoignage, mais on ne peut pas rentrer dans un véritable comportement de chrétien s'il n'y a pas cette base. Moi, je me posais la question, comment commencer cette étude ? Parce que vous allez voir, il y en a des problèmes à Corinthe. Dans une église, je vous l'ai dit, où il y a tous les dons, où il ne manque rien. Mais il y a une base. Et moi, il y a même un pasteur dans nos assemblées qui a remis en question la divinité de Jésus-Christ. C'est pour vous dire que ça va loin. Dans nos assemblées. La base du témoignage, c'est de croire, d'ailleurs c'est Paul qui le dit, vous avez vu, quand il commence l'épître, il parle que de Jésus. qu'il est le fondement, il est la base. Vous fréquentez une église, vous êtes dans cette église, ou vous êtes dans une autre, vous qui écoutez la prédication. Dans cette église où nous sommes, où vous êtes, quel est le fondement de l'église? Est-ce que véritablement vous pouvez dire oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Ce soir, il faut que vous le disiez. Enfin, il faut que vous le sachiez. Oui, d'accord, je crois dans la Trinité, mais enfin, pas trop, je ne sais pas. Écoutez-moi, s'il y a un problème. Comment on va rendre un bon témoignage si demain vous discutez avec telle personne, vous n'avez aucune assurance? Il faut que vous ayez cette assurance. Alors, est-ce que parce qu'on a pris le baptême? Je prends la Sainte Cène? Je connais les 10 commandements par cœur? J'ai bien sûr été baptisé, etc. Est-ce que je suis un véritable chrétien? Ben non. Il y a des gens, ils sont baptisés, ils connaissent des commandements par cœur, ils vont à l'église tous les dimanches, ce ne sont pas des vrais croyants. Et même s'ils fréquentent une assemblée de Dieu. Ça vous choque ce que je vous dis? Non. Et c'est pour cela que les païens, certains païens, bon ils ont tort, certains païens utilisent ces scandales, parce que ces chrétiens, ces croyants ayant un mauvais témoignage, ils sont des objets de scandale. Jésus va loin, puisqu'il dit que celui qui scandaliserait un de ses petits, eh bien, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache une pierre à son pied et qu'on le jette dans la rivière. C'est pour vous dire que c'est important de rendre un bon témoignage. Est-ce que vous trouvez que vous rendez un bon témoignage? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que, voilà, moi je veux être un bon témoin, Jésus a dit, vous serez, même si on convertit personne. Est-ce que le témoignage est proportionnel à 100 conversions? J'ai amené 100 personnes à la conversion, dont je rends un meilleur témoignage que celui qui en a amené que 50, et 4 fois mieux que celui qui en a amené que 25. Est-ce que c'est ça le témoignage? Bien sûr que non. Dans un pays musulman, amener une âme à Dieu, est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile. Dans un pays protestant, moi j'ai travaillé en Polynésie. En Polynésie, tout le monde croit en Jésus. Est-ce que c'est plus facile d'amener une âme à Dieu? Oui, c'est plus facile, parce que tout le monde croit en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc il y a des endroits plus difficiles que d'autres. Vous êtes d'accord? Il faut accepter cette idée, mais ce n'est pas le nombre de conversions que Dieu va me demander quand j'aurai été au ciel. Ce que Dieu va me demander, est-ce que j'aurai été un bon témoin? Je veux me comporter comme Dieu le veut. Et Jésus, sur la croix, a tout accompli. Parce que moi, j'en ai un peu assez. Quand on me dit, oui, mais vous comprenez, celui-là, il a un mauvais témoignage parce qu'il a eu une enfance difficile. Et vous savez, les psychologues, on dit que si, on dit que là. Écoutez, moi, je crois à la grâce de Dieu. Moi, je crois à la grâce de Dieu. Moi, je crois que Dieu est un Dieu qui délivre, un Dieu qui guérit. On a un problème, eh bien, Dieu nous délivre. L'Éternel, je bénirai l'Éternel qui guérit de toutes les maladies. Il faut arrêter parce qu'on est arrivé à tolérer des péchés dans les églises parce que c'est pour ça que j'ai parlé de la foi et de la grâce de Dieu. Jésus, lorsqu'il est venu, lorsqu'il a donné sa vie, lorsqu'il est mort, lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il a donné le Saint-Esprit, il nous a donné la grâce de devenir enfants de Dieu. Regardez d'ailleurs dans Jean au chapitre 1er, c'est bien expliqué parce que quand même il faut être sérieux. Moi je ne suis pas d'accord, bien sûr qu'on a tous des manquements. On a tous des faiblesses, mais je crois que si je reste, écoutez, imaginez, je reste dans ma, je sais pas, dans ma rancune, est-ce que c'est normal? Je suis votre pasteur, mais vous savez pas ce que j'ai vécu, et j'ai souffert et tout, c'est normal que j'ai de la rancune. Qu'est-ce que vous allez dire? Ben, on l'accepte comme il est notre pasteur, il a de la rancune, mais c'est pas grave, il prêche quand même. C'est comme ça que ça doit marcher? Est-ce que Dieu délivre de la rancune? Ben oui! Regardez Jean chapitre 1er, j'ai pris ce verset parce que c'est quand même, c'est la parole et c'est bien expliqué. Jean chapitre 1, versets 11 à 13. Elle est venue chez les siens, la parole, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné, qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'est pas dit, elle a donné de devenir enfant de Dieu. Il est écrit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés de la volonté, etc. Mes frères et sœurs, lorsqu'on devient chrétien, on reçoit la grâce, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de pouvoir prendre des victoires. Grâce soit rendue à Dieu qui nous rend toujours victorieux. Mes frères et sœurs, ce soir, vous pouvez dire, mais moi c'est clair, je veux rendre un bon témoignage. J'ai foi en Jésus, mais j'ai foi aussi dans la grâce de Dieu. Parce qu'une foi, la vraie foi, la foi, elle commence par la connaissance de Dieu. C'est écrit plusieurs fois, la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul a été inspiré justement pour nous aider, parce qu'il y a plein de choses qui doivent changer. On revient à Corinthiens. Par exemple, j'ai pensé, parce que j'ai que l'embarras du choix, il y a des choses qui vont dans notre vie. Est-ce qu'il y a des choses qui vont bien dans notre vie? Heureusement. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses on ne les sait pas. Si vous regardez au chapitre 11, par exemple, je veux vous donner des exemples. Ce n'est pas parce que des choses vont bien que tout va bien. Et ce n'est pas parce que des choses vont mal que tout va mal. D'ailleurs, regardez au chapitre 11, au verset 2. J'ai pris cet exemple pour vous aider à méditer, pour que vous méditiez la parole de Dieu en comprenant bien l'autorité de Paul, l'autorité de Dieu pour nous. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Qu'est-ce que Paul dit? Je vous loue. Comment c'est dans ta Bible? Je vous félicite. Ah, est-ce que c'est bien d'être félicité? Je vous loue. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions. Ah. Bon, est-ce que c'est bien? Eh oui, c'est bien. Et pourtant, au verset 17, en donnant cet avertissement, qu'est-ce qu'il dit? Là, il ne félicite pas. Ce que je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez. Qu'est-ce qu'il t'écrit? Non mais est-ce que c'est possible dans une église où il y a tous les dons, ils s'assemblent non pour faire des progrès, mais pour régresser. Verset 22. N'avez-vous pas des maisons, parce qu'il y avait un problème au niveau de la Seine-Seine. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Méprisez-vous l'église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Et que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Voyez, d'un côté, on voit que Dieu peut nous adresser certaines louanges, et d'un côté, accepter les reproches. C'est d'accord. Est-ce qu'on peut louer quelqu'un? Oui. Je vous avais dit dernièrement j'avais dit, on peut louer le frère pour tout ce qu'il a fait dans l'église. J'avais parlé d'un frère qui avait beaucoup travaillé dans l'église. Il y a une sœur à la sortie qui m'a dit, mais monsieur Hugo, c'est grave, c'est antidoctrinal ce que vous dites. On ne peut pas louer quelqu'un. J'ai dit, mais non, c'est pas écrit. Il y a écrit qu'on peut louer quelqu'un. Ah non, monsieur Gros, c'est pas vrai. Il dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Oui, l'adoration. Mais voyez comment les gens. Mais une fille, mais en plus, mais ça arrive souvent, ça, que des gens viennent nous donner la leçon. Monsieur Gros, vous vous êtes trompé. Bon, ça m'est égal. Si c'est vrai, c'est bien. Et regardez dans le Proverbe 27. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut apprendre. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens, oh, j'adore mes petits-enfants. Vous avez jamais entendu ça? Oh, mes petits-enfants, je les adore, ils sont mignons. Ou alors, j'adore la glace au chocolat. Bon, je trouve qu'il y a quand même une petite différence entre adorer Dieu et adorer la vanille. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on peut dire, je raffole de la glace au chocolat, je suis bouleversé d'avoir des petits-enfants, mais... C'est vrai que l'adoration, on devrait la réserver qu'à Dieu. Il y a des chrétiens, même ici. Ah, mes petits-enfants, j'adore et tout. Moi, je reprends, des fois ça se prête, des fois ça ne s'y prête pas toujours. Mais regardez, dans le psaume 27, c'est pour ça qu'il vous faut marquer ces versets. Vous voulez rendre un bon témoignage? Prenez des notes. Ceux qui ne prennent pas des notes, c'est qu'ils ne veulent pas rendre un bon témoignage. Non, je plaisante. Proverbe 27, verset 2. Vous y êtes? Qu'est-ce que j'ai dit? Proverbe 27, verset 2. Qu'un autre te loue, et non ta bouche. Vous voyez? Oui, bon, c'est vrai qu'il vaut mieux pas se mettre en avant, mais est-ce que quelqu'un d'autre peut nous mettre en avant? Ben oui, qu'un autre te loue. Mais il faut bien faire la différence entre la louange et l'adoration. Mes frères et sœurs, on a tous la possibilité de prendre un dictionnaire. Regardez la différence entre la louange, qui est un remerciement, de la reconnaissance profonde, et puis l'adoration, qui est la prosternation. On n'adore que Dieu. Donc on devrait quand même... Là aussi c'est important. Vous trouvez que c'est un bon témoignage qu'un chrétien dise « j'adore le chocolat » Ça fait quand même dommage. Donc, il y a un principe, c'est la parole. Vous savez, quand moi je vois des gens qui commencent à douter le premier chapitre de la Bible, le premier verset, oui, Dieu a créé la terre, mais est-ce que c'était en 24 heures? Moi j'ai des doutes. Je me dis, si tu doutes au premier verset, au premier chapitre, je me demande ce que ça va donner au deuxième chapitre. Et vous comprenez? Et il y a un verset qu'on apprend à tous les néophytes, à ceux qui découvrent l'Évangile, c'est dans 2 Timothée 3,16, sur l'infaillibilité de la parole. Voilà comment commence... Un bon témoignage, le fondement en Jésus-Christ, par la foi, par la grâce, de comprendre qu'il y a des choses qui vont, des choses qui ne vont pas, c'est normal, même si Dieu nous avait donné tous les dons. Mais il y a un premier pilier, c'est l'infaillibilité de la parole. Moi, je suis peiné quand j'entends dire, oui, mais ça, d'accord, l'apôtre Paul, est-ce qu'il n'était pas un peu misogyne? Il a écouté. Toute l'écriture, on le lit, 2 Timothée 3,16. Mes frères et sœurs, apprenez ce verset par cœur, vous discuterez avec des gens, oui, la Bible, lisez-le, c'est pas votre parole, c'est ce que Dieu dit qui est important. Vous pouvez apprendre ce verset par cœur, 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous le croyez, ça? Tout, de Genèse 1 à Apocalypse 22, vous croyez tout? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, vous voyez, pour corriger, c'est bien, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, donc afin qu'il ait un bon témoignage. Voilà ce verset, tout le monde devrait le connaître par cœur, oui ou non? Vous discutez avec quelqu'un, avec n'importe qui, moi je crois que toute la Bible est inspirée. Toute la Bible est inspirée. Il y a un fondement, c'est Éphésiens qui dit « Vous êtes l'édifice de Dieu ». Non, ça c'est Corinthiens. « Vous êtes l'édifice de Dieu ». C'est, regardez dans Corinthiens, on va prendre dans 2 Corinthiens. À ce sujet, vous pouvez lire aussi pour le fondement, parce que le temps passe, on n'aura pas le temps, Éphésiens 2, 19 à 22, pour voir combien Paul parle de ce fondement. Mais regardez, 1 Corinthiens chapitre 3, on va lire, oui, 1 Corinthiens 3 verset 9. Puisque c'est quand même dans les premiers problèmes. 1 Corinthiens 3, verset 9. Mes frères et sœurs, la base, c'est important. Ce soir, ce n'est pas les problèmes qu'on règle, c'est la base. Parce que si on ne croit pas dans ces choses, le reste ne suivra pas. C'est comme une maison qu'on construirait sur le sable. 1 Corinthiens 3, verset 9. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? L'Église, c'est l'édifice de Dieu. C'est écrit plusieurs fois, vous êtes la maison de Dieu. Vous vous rendez compte de l'importance du témoignage? Oui ou non? Vous êtes l'édifice de Dieu. 2 Corinthiens 3. C'est parce qu'il faut comprendre pourquoi il faut rendre mon témoignage. Il y a déjà dit, mais moi j'en ai rien à cirer. Ce que les gens pensent de moi, eh bien c'est pas bien. Mais c'est grave ça. Ça prouve que la personne, elle n'a rien compris. Quand on devient chrétien, vous avez vu dans le monde certains ambassadeurs? Comment ils présentent leur pays. Vous avez vu aux infos des fois, tiens, on vous montre, tiens, l'ambassadeur de France au Gabon. Vous avez vu comment ils sont? Comment ils sont mis? Comment ils se présentent? Parce qu'ils représentent la France en Outre-mer. Vous les avez vus avec des jeans déchirés, mal rasés? Ouais, je suis l'ambassadeur de France. Ouais. Je suis loin de chez moi, je fais ce que je veux. Vous avez... Non, mais c'est quand même... C'est des ambassadeurs. Est-ce que c'est écrit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ? Après, chacun, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On doit avoir sa personnalité, chacun a sa personnalité. Je ne parle pas du caractère, le caractère, il faut le changer. Mais la personnalité, on a sa personnalité. Mais, mes frères et sœurs, vous avez vu, vous êtes l'édifice de Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 2. 2 Corinthiens 3, verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre. Vous vous rendez compte? Vous êtes une lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Donc quand même, que nous gardions notre personnalité, c'est tout à fait normal et c'est bien. On ne va pas imposer à tout le monde de s'habiller de la même manière. Vous avez vu l'esprit militaire, tout le monde est habillé pareil. L'Église n'est pas militaire. L'Église, elle est, chacun est soi-même. Mais nous devrions être une lettre. Et tout ça, nous le devenons par la parole écrite. Il y a la parole vivante, c'est Jésus, et la parole écrite. Donc, c'est la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas poser un autre fondement. C'est écrit ça? C'est écrit dans 1 Corinthiens, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il est la pierre de l'angle. Donc, un chrétien, il a une foi personnelle qui vit de plus en plus, qui lui apporte des victoires parce qu'il y a la grâce de Dieu. Et ce soir, vous pouvez dire, mais tiens, oui, c'est peut-être grâce à cela que Dieu peut me louer, parce que je suis appliqué, je fais ça dans l'église, je joue de la musique, je m'applique, je répète des cantiques, mais peut-être que le lundi au travail, c'est pas la même musique. Alors Seigneur, tu vas me parler, et il va le faire. Vous croyez que Dieu, si vous lui demandez du pain, il va vous donner une pierre ? Vous croyez que si vous avez un problème, quel qu'il soit, Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Vous croyez que Dieu va vous délivrer ? Je suis jaloux. Je suis un homme jaloux. Est-ce que Dieu peut me délivrer de la jalousie ? Mais bien sûr. Mais non, mais franchement, c'est vraiment minable de ne pas le croire. La foi, elle fait par la foi, regardez, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Et le comportement, on va le voir. Je vous le dis, dans une église où il ne leur manque rien, où Paul dit, mais je vous loue de ce que vous avez retenu. Vous avez retenu, mais il va falloir quand même régler les boulons. Je vous le dis. C'est un français courant. Il dit, voilà, vous avez retenu mes instructions, mais attention, cette affaire-là, la discipline dans l'église, est-ce que c'est important la discipline dans l'église ? Avec ma femme, tout à l'heure, on parlait dans la voiture de la tenue vestimentaire. Est-ce que c'est important dans une église d'avoir une tenue vestimentaire correcte ? Pas que dans l'église, mais partout. Est-ce que c'est important ? Ou on se dit, moi les autres, j'en ai rien à faire. Moi, quand j'entends un chrétien qui me dit ça, je sais, écoutez bien, je sais que dans quelques mois, ou un peu plus, il va rétrograder. Parce que comme on le voit justement dans les Corinthiens, on a le souci des autres. On a le souci des autres. Oui ou non ? Franchement, si vous dites moi les autres, je m'en fiche. Je peux vous dire que vous n'êtes pas en bon état. Parce que quand on s'en fiche de la conscience des autres, je vais terminer avec ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe quand on se moque de la conscience des autres ? On le lit ? Je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, je ne sais pas si je continue un peu. Alors, c'est dans 1 Corinthiens 6 ou 7, 6, 8, ça va venir, 8, attendez. 1 Corinthiens 8, regardez bien ce que Dieu dit lorsque on méprise la conscience des autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. En péchant de la sorte contre les frères, en blessant leur conscience faible, qu'est-ce que vous avez dans la suite ? Ah pardon, verset 12. Avec plaisir, Madame Chapeau. En péchant de la sorte contre les frères, en blessant leur conscience faible, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous comprenez pourquoi on a attristé le Saint-Esprit dans bien des endroits ? On respecte la conscience de l'autre. On fait attention, on va voir, de ne pas être une pierre d'achoppement. Et c'est vrai qu'on revient au début là, de cette introduction. Vous y revenez pour terminer au verset 6. Voyez, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Gloire à Dieu. Nous sommes ici, Dieu nous a placés dans cette église. Vous êtes content que Dieu vous ait placé à Sainte-Agne ? Ben moi oui, moi ça fait 17 ans que je suis là et je suis rempli de reconnaissance d'être chrétien au milieu de vous. Mais voilà, je crois qu'au-delà de la joie qu'il y a entre nous, nous avons le désir que le témoignage de Christ soit établi dans cette église. Amen. Le témoignage de Christ. Là, il dit à l'église, au début, vous avez vu, au verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Je termine quand même avec cette pensée, parce que sinon on va perdre du temps chaque fois. Le nom d'une église. La ville, l'église d'une ville. Il y a l'église de Toulouse. On pourrait parler de l'église de Paris. On peut parler de l'église de Calcutta, ou l'église du Bangladesh, tiens, d'un pays. Est-ce qu'on peut parler de l'église de France ? Oui. C'est quoi l'église ? C'est une ville ? C'est un pays ? C'est une dénomination ? C'est toutes les deux dénominations ? C'est quoi l'église ? Parce que les gens, ils sont perdus. Je vous assure, voilà. L'église, c'est le corps de Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, si tu le confesses et si tu le crois, tu seras sauvé. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'église baptiste, l'église assemblée de Dieu, c'est tous les chrétiens dans toutes les dénominations qui confessent appartenir à Jésus-Christ. Voilà l'église. C'est important ça. Parce que quand vous entendez dire, mais non, l'Église, c'est l'Assemblée, c'est les assemblées de Dieu. Il n'y a qu'une Église, c'est les meilleurs, c'est nous. Je l'ai entendu ça, mais ça doit plaire au Seigneur ça. On n'est pas les meilleurs. On appartient ou on n'appartient pas à Jésus-Christ. On est dans telle ou telle dénomination. C'est vrai que dans certaines dénominations, on respecte plus la doctrine que d'autres. C'est vrai qu'il y a des dénominations qui ne peuvent qu'être désapprouvées de Dieu. Lorsque les protestants, et je le dis, ils peuvent venir me trouver s'ils entendent. Lorsque les protestants ont par démagogie, ont voulu à tolérer le mariage pour tous dans les églises, ça c'est de la démagogie pour faire comme le monde. Personne ne leur a demandé. Moi je peux vous dire qu'ils ne vont pas tirer la bénédiction du Seigneur. Alors, je crois par contre que dans l'église protestante, il peut y avoir des gens qui, ça va être pas facile, qui vont rester accrochés à Jésus-Christ, ça va pas être facile. Hein. Parce que moi je peux vous dire que j'aurais démissionné, je n'aurais pas pu construire un truc pareil. Mais ça c'est ma conviction. Mais pour vous dire que l'église ce n'est pas une dénomination, l'église, elle est composée de tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. D'ailleurs, Paul le dit, il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Donc, si vous appartenez à Jésus-Christ et que vous obéissiez à Dieu, que vous cherchiez à faire en sorte que le témoignage de Christ soit rendu parmi nous, vous faites partie de l'Église. Et si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, même si vous avez pris le baptême, même si vous connaissez les cantiques par cœur, vous ne faites pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Et à partir de cette base-là, on peut commencer à dire, voilà comment ça doit se passer, parce qu'on va l'accepter, parce qu'on reconnaît que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Vous comprenez? Parce que dans une église où les gens ne croient pas que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, je me demande comment ils vont faire pour pouvoir rendre un bon témoignage. Comment ils vont faire pour tomber d'accord s'ils ne croient pas que la parole de Dieu est inspirée. Ce soir, ce que je voulais, c'est introduire ce thème, parce que pour moi, c'est important. Parce que je vois, ça me fait de la peine, bon après je le dépose, mais ça me fait peine quand je vois des chrétiens qui rendent un mauvais témoignage. Parce que quand on a eu un mauvais... Est-ce que ça peut arriver d'avoir une mauvaise parole? Mais le bon témoignage c'est quoi? Eh bien c'est de se ressaisir. Je te demande pardon. Je t'ai dit ça, je te demande pardon. C'est pas bien. Est-ce que ça c'est un bon témoignage? Ben oui. Bien sûr que c'est un bon témoignage. Le bon témoignage, ce n'est pas d'être infaillible. L'infaillibilité, ça n'existe pas. La Bible n'a jamais demandé à quelqu'un d'être infaillible. La Bible demande d'être irréprochable. Et irréprochable, ça veut dire j'ai commis 3 erreurs, et bien les 3 erreurs, je les répare. C'est ça être irréprochable. Alléluia. Alors lisez, vous allez voir, c'est impressionnant le livre des Corinthiens. Moi je le lis, je le relis en ce moment, parce que je voudrais que lorsqu'on l'aura fini, eh bien notre témoignage soit rendu beau. Moi je ne sais pas, quand Jésus va revenir, vous n'avez pas envie que l'Église ait rendu un bon témoignage? Non? Vous n'avez pas envie que voilà, quand vous passerez devant Dieu, que, je ne sais pas comment ça va se passer, ça. Je pense que ça va être merveilleux et compliqué en même temps. De quelle Église tu faisais partie? Tu as rendu un bon témoignage. Vous n'avez pas envie que Dieu vous dise ça? Parce que ça par contre, si vous ne demanderez pas à l'Église dans laquelle vous étiez, nous pouvons nous attendre à ce que le Seigneur nous dise, tu as rendu un bon témoignage ou pas. Et si nous comprenons ces choses, parce que je le dis, parce que comme ces études sont enregistrées, il y a des gens qui découvrent le site, etc., il faut qu'ils comprennent bien que le comportement du croyant commence avec des gens qui ont une base dans la foi, dans la grâce, alléluia, et dans le fait que les Écritures sont inspirées. Vous êtes le fondement, vous êtes l'édifice de Dieu, nous avons cette immense responsabilité de rendre un bon témoignage. Même si vous convertissez personne, ça c'est pas. Vous savez, Noé, il n'a pas converti beaucoup de gens, Noé. Et pourtant, c'était un prédicateur de la justice. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Il n'y en a même pas 50 qui sont entrés. Et pourtant, est-ce que Dieu lui a reproché? Non. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Dieu nous dit, soyez de bons témoins. Pas ici, partout. Voilà ce que Dieu nous demande.